Et on retrouve Michael Ponge pour le journal d'Haïti et des Amériques.
Merci Juliette, il est 8h10 à Lima. Un exécutif totalement novice à la tête du Pérou, le président Castillo se choisit un premier ministre qui fait beaucoup parler aujourd'hui. Son homologue guatémaltèque appelé, lui, par la rue à la démission, des nouvelles arrestations encore au Nicaragua et l'interview de Martin Moïse dans la presse américaine. On s'y arrête, mais aussi aujourd'hui on rouvre le douloureux dossier du racisme endémique envers les populations autochtones au Canada. Tout ça, c'est avant de vous retrouver, Tiziana Maron pour le journal de la première. On se rend en Guyane où des déclarations du ministre de l'Éducation passe plutôt mal.
Oui, nous entendrons la vive réaction de la Fédération des parents d'élèves de Guyane.
À tout à l'heure, Tiziana, et bienvenue à tous.
Radio France Internationale. Las voces del mundo.
Après Lima, Ayacucho, au sud du Pérou, c'est là que se sont poursuivies hier les cérémonies d'investiture et du bicentenaire de l'indépendance péruvienne. C'est là que Pedro Castillo, le nouveau président, a annoncé celui qui aura la charge de diriger le gouvernement.
Guido Bellido Ugarte, juráis por Dios desempeñar leal y fielmente el cargo de presidente del Consejo de Ministros.
Sí, juro.
Il s'appelle donc Guido Bellido, vous venez de l'entendre, prêtez serment. Bonjour Romain Lemaresquier.
Bonjour Michael, bonjour à tous.
C'est un choix ce Guido Bellido qui fait beaucoup parler aujourd'hui.
Oui, Pedro Castillo a donc choisi Guido Bellido, un ingénieur sans expérience politique pour le poste de Premier ministre. Un choix contesté, notamment par l'éditorialiste de La Repubblica, qui juge cette décision comme un coup bas porté à tous ceux qui ont choisi de voter pour le candidat de la gauche radicale dans une logique anti-fujimoriste, progressiste ou encore d'unité nationale. La Repubblica, explique l'éditorialiste, a toujours fait le choix de la démocratie, du respect des droits et des libertés pour tous, raison pour laquelle le quotidien dit non, monsieur le président, ce vendredi en une de son édition.
Une bonne partie de la presse romaine, en effet, est sceptique face à ce choix de Guido Bellido.
Oui, Pedro Bentiu nous rappelle qu'il fait l'objet actuellement d'une enquête préliminaire pour apologie du terrorisme suite à des déclarations sur une radio où il refusait de dire que le Sentier Lumineux était une organisation terroriste, une enquête qui lui interdit de participer aux commissions sur la défense et les renseignements. Un Premier ministre qui s'est engagé à mettre fin à la corruption, mais qui, sur les réseaux sociaux, n'hésite pas à faire l'apologie d'un certain Vladimir Cerón, pourtant condamné pour des faits de corruption, selon El Comercio. Guido Bellido est aussi connu pour son langage pour le moins fleuri sur les réseaux sociaux, ajoute le quotidien, lui qui n'hésite pas à publier des messages homophobes, misogynes et très radicaux. Guido Bellido va diriger une équipe de 16 ministres qui ne compte que 2 femmes. Un gouvernement qui n'a pour l'instant ni ministre de l'économie, ni ministre de la justice, s'alarme La Repubblica.
Et justement, un roman, Pedro Castillo devrait les nommer ces deux ministres, ce vendredi. Un mot du Nicaragua, pas un jour ou presque sans qu'un opposant n'y soit arrêté dans ce pays. Hier, un ancien ministre des Affaires étrangères et une avocate qui travaille pour la Commission permanente des droits de l'homme ont été placés en détention.
Oui, des arrestations qui se déroulent alors que depuis le 28 juillet jusqu'au 2 août, les personnes qui le souhaitent peuvent s'inscrire pour l'élection présidentielle prévue le 7 novembre prochain. Francisco Aguirre, ancien député qui fut ministre des Affaires étrangères et également ambassadeur aux États-Unis, a été placé en détention pour 90 jours, détaille la Prensa. Il aurait prétendument commis des actes portant atteinte à l'indépendance, à la souveraineté et à l'autodétermination du Nicaragua, selon un communiqué du parquet. Une arrestation dénoncée sur les réseaux sociaux par le mouvement d'opposition Unidad Nacional Azul y Blanco, qui n'hésite pas à parler de séquestration. Et puis, l'avocate Maria Oviedo a également été placée en détention hier, annonce Confidencial, ce qui porte à 31 opposants arrêtés ces dernières semaines.
Ces slogans, à présent, scandaient bien fort dans les rues du Guatemala. Des milliers de manifestants se sont mobilisés hier, Romain, pour réclamer la démission du président Giamatei et celle de Maria Porras. Cette dernière, Romain, est la procureure générale du Guatemala.
Et oui, il s'agit d'un mouvement de contestation qui fait suite au limogeage le week-end dernier de Juan Francisco Sandoval, qui était le chef du bureau du procureur spécial contre l'impunité et qui était surtout très soutenu par les États-Unis. Alors jeudi, ils étaient des milliers dans les rues du pays à réclamer le départ du président Alejandro Giamatei et de Maria Porras. Des dizaines de barrages routiers avaient été mis en place pour bloquer le pays, détaille El Periodico. Mais cela ne semble pas pour autant inquiéter le président, qui met tout de même un bémol, perdre le soutien des États-Unis le préoccupe, explique-t-il dans les pages de Prensa Libre. Alejandro Giammattei dit chercher désormais le soutien d'autres pays pour l'aider à financer sa lutte contre la corruption, entre autres. Mais les manifestants, eux, attendent sa démission, selon la Hora, et que le président se plie aux demandes de la justice qui enquêterait sur des faits de corruption le concernant.
Et nous avons vu l'incompétence et l'inefficacité de ce gouvernement dirigé par le président Giammattei, s'époumonne la députée Sonia Gutiérrez. Que l'on entend, c'est pourquoi, dit-elle, le peuple exige sa démission. Il a perdu toute confiance. Il n'est plus digne d'être en charge. Il est 9h15 à Port-au-Prince.
Port-au-Prince, 89.3 FM.
Vous nous parlez à présent, Romain, de cette interview de Martine Moïse, la veuve du président haïtien assassiné le 7 juillet dernier. Elle s'exprime pour la première fois dans un entretien au New York Times depuis cette nuit tragique, hein, elle qui a aussi été gravement blessée.
Oui, la veuve du président haïtien revient pour la première fois sur cette nuit horrible et la douleur fulgurante de voir son mari, un homme avec qui elle avait partagé 25 ans de sa vie, se faire tuer sous ses yeux. Martine Moïse profite de cette interview avec le New York Times pour réclamer l'aide des États-Unis dans l'enquête sur l'assassinat de son mari. Comme de nombreux Haïtiens, elle se pose de nombreuses questions. Comment se fait-il qu'aucune des 50 personnes chargées de la sécurité du président n'ait été blessée ou tuée ? Qui est le véritable commanditaire de cette opération menée par un commando ? Une opération qui a coûté de l'argent et qu'aucun des prévenus jusqu'ici mentionnés par la justice haïtienne n'a les moyens de financer. Elle rappelle que son mari a tenu tête aux riches et aux puissants, laissant entendre qu'il faudrait chercher du côté des riches oligarques du pays. Une longue interview au cours de laquelle l'ancienne première dame annonce qu'elle envisagerait sérieusement de se présenter à la présidence.
Et en tout cas, 23 jours après l'assassinat du président Moïse, l'opposition politique et les organisations de la société civile ne sont toujours pas parvenus de leur côté à un accord pour présenter au pays une alternative consensuelle. C'est ce que nous apprend aujourd'hui le Nouvelliste dans ses colonnes. Le seul point commun entre les différentes composantes de cette opposition, écrit le quotidien haïtien, c'est qu'ils désapprouvent cette composition du gouvernement Ariel Henry et veulent avoir un exécutif avec le président et un premier ministre. Pendant ce temps, aux États-Unis,
we need some straight talk right now.
Joe Biden veut parler franchement aux Américains après l'incitation est venue le temps de l'obligation. Dans un discours consacré à la pandémie hier, le président a annoncé une série de mesures pour redynamiser la campagne de vaccination et ça passera entre autres par une obligation de vaccination pour les employés fédéraux, à moins de vouloir reporter pour ces gens-là le masque et de se soumettre à des tests réguliers.
C'est une question de vie ou de mort. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, à tous ceux qui ne sont pas vaccinés, s'il vous plaît, vaccinez-vous. Aux autres Américains, je dis que ce n'est pas le moment de baisser la garde.
Le président des États-Unis, Joe Biden, hier, qui est donc face à la progression du variant Delta aux États-Unis comme ailleurs. Voilà pour l'actualité chaude, si je puis dire, brûlante de ces dernières heures. Merci beaucoup, Romain Lemaresquier. Il est 9h18 à Ottawa et c'est au Canada que je vous propose de nous arrêter à présent. Le Canada où lundi, Mary Simon, leader inuit et ancienne diplomate, a pris ses fonctions en tant que gouverneur général. Elle devient ainsi la première femme d'origine autochtone choisie pour être la représentante de la reine Elisabeth II au Canada. Et voilà ce qu'elle a déclaré lors de son premier discours.
The discoveries of unmarked graves on the grounds of residential schools.
J'ai été horrifié, dit Mary Simon, par les récentes découvertes de tombes anonymes sur les terres de pensionnats fédéraux. Bonjour Marie-Normand.
Bonjour.
Ces découvertes, qui datent pour la dernière d'il y a un mois, tout juste, ce sont ces milliers de tombes d'enfants autochtones mises au jour près de pensionnats catholiques en Colombie-Britannique grâce à des études radar qui ont aussi permis de révéler la présence de ces tombes autour d'hôpitaux réservés aux autochtones. Marie, vous avez longuement parlé avec Jimmy Papati. Il est l'un de ces anciens pensionnaires de ces établissements.
C'est un Anishinaabe, un Algonquin, ancien chef du village de Kitsakek. Et c'est à l'âge de 5 ans, raconte-t-il, que les autorités sont venues le chercher et l'ont amené donc dans le pensionnat d'Amos, au Québec.
On n'avait pas le choix d'y aller. Les familles qui habitaient à Kitsakek, on leur a expliqué que s'ils ne laissaient pas partir leurs enfants, le gouvernement leur coupait toute aide. Puis moi, je me souviens quand il y avait des enfants qui s'accrochaient après leur famille, quand que les hommes résistaient pour protéger les enfants, ils se faisaient battre à coups de matraque par la police. Puis on mettait tous les enfants à l'intérieur de l'autobus. Puis quand on est parti du village, tous les enfants dans l'autobus pleuraient.
On le comprend, Marie, c'est donc sous la contrainte que quelques 150 000 enfants autochtones ont ainsi été envoyés dans ces pensionnats des années 1880 jusqu'en 1996. L'objectif était en fait de les assimiler à la culture dominante.
Oui, d'effacer leur identité autochtone, et ça commençait dès l'arrivée dans le pensionnat, raconte Jimmy Papati.
Au troisième étage, ils nous ont enlevé tous nos vêtements, nos mocassins, nos manteaux. Tout ce qui était autochtone, on nous a enlevé, puis les ont brûlés, jetés. Puis après ça, ils nous ont carrément coupé les cheveux, court. Là. C'était fini, les longs tresses de notre identité. Puis on s'est fait mettre dans des classes pour l'école. Puis on ne devait plus parler notre langue, notre culture.
L'abandon d'une identité, donc sous la menace de sanctions. L'ancien pensionnaire raconte aussi les mauvais traitements, les sévices et les viols.
Nous étions devenus un parc d'enfants où ce que les agresseurs pouvaient sélectionner qui ils voulaient. Puis dans mon groupe, à moi, on était une trentaine de jeunes dans notre dortoir. Une vingtaine ont subi des abus.
Des dizaines de milliers de signalements de viols ont ainsi été enregistrés par la commission Vérité et Réconciliation qui a publié un rapport en 2015. Cette commission, Marie, qui estime aussi entre 3000 et 6000 le nombre d'enfants qui ne sont jamais revenus.
Oui, la plupart sont morts de tuberculose ou d'autres maladies infectieuses. D'autres ont servi de cobayes pour des expérimentations médicales sur la malnutrition. Des décès et des disparitions dénoncées depuis des années par les familles autochtones. Et pour Jimmy Papati, chaque nouvelle découverte réveille le traumatisme. Il demande des comptes aujourd'hui à l'État canadien.
Il faut qu'il y ait une enquête publique au Canada, une enquête criminelle. Il y a des policiers qui n'ont pas fait leur job. Il y a des gens qui ont agi en toute impunité sous le silence du Canada. Ces gens-là doivent être traduits devant les tribunaux. La communauté doit faire pression pour que les Autochtones soient traités au même titre que tout l'ensemble des Canadiens.
Établir la vérité sur le traitement des Autochtones et leur garantir les mêmes droits. Aujourd'hui, c'est donc le défi du Canada et peut-être aussi de la nouvelle gouverneure générale Mary Simon que l'on évoquait. Sa nomination annoncée après ces découvertes de tombes se veut comme un geste de réconciliation.
Our country must do more to respect all languages, cultures.
Notre pays doit faire plus pour respecter les langues, les cultures, les différentes ethnies, disait lundi lors de sa prise de fonction Mary Simon. Comment Marie réagit Jimmy Papati à cette nomination?
Alors il estime que c'est une nomination politique et que le Canada peut et doit faire plus, même s'il loue aussi les qualités de Mary Simon.
Beaucoup de travail donc encore, notamment aussi Marie, concernant le système de santé canadien. La mort de la mère de famille autochtone Joyce Etchakwan, qui a filmé en direct avec son téléphone portable son agonie et les propos dégradants d'infirmières dans un hôpital du Québec récemment, a relancé le débat sur le racisme systémique dont sont victimes les Autochtones.
Oui, et c'est le sujet d'un livre du pédiatre urgentiste Samir Shahin Hussein, professeur adjoint à la faculté de médecine et des sciences de la santé de l'université McGill à Montréal. Pour lui, contrairement aux conclusions de la commission Vérité et Réconciliation, les Autochtones n'ont pas seulement été victimes d'un génocide culturel, mais bien d'un génocide tout court.
Le livre expose les crimes génocidaires perpétrés contre les enfants autochtones par le système de santé au Canada, avec des médecins souvent menant la charge. Donc, je parle par exemple des épidémies de variole fomentées, les morts évitables causées par la tuberculose, les expérimentations médicales et les mauvais traitements infligés dans les pensionnats, les hôpitaux indiens. Je parle des stérilisations forcées des adolescentes et aussi les enlèvements et les disparitions dans le système de soins comme tel. Et donc, les chapitres du livre rendent compte de nombreuses situations illustrant les préjudices causés aux enfants autochtones par le colonialisme médical, le rôle actif de l'establishment médical dans ce projet colonial génocidaire et l'impunité qui a permis à de telles injustices de persister sous diverses formes jusqu'à nos jours.
Et ce livre, Plus aucun enfant autochtone arraché, pour en finir avec le colonialisme médical canadien, il prend comme étude le cas de principe de non-accompagnement. Il s'agit de quoi ?
Alors, c'est une pratique qui consistait à ne laisser aucun proche accompagner les enfants évacués par avion pour raison médicale, pratique qui impactait surtout les enfants autochtones, des enfants qui ne parlaient donc pas la langue des médecins qui les soignaient. Aux côtés d'autres médecins, le docteur Samir Shahin Hussein s'est battu contre cette pratique qui n'a plus cours depuis 2018. Comment évaluer l'impact de ces pratiques sur la santé des enfants autochtones? Le pédiatre répond en donnant ces quelques chiffres glaçants.
Au Canada, la mortalité infantile des Inuits est près de 3 fois plus élevée que celui des nourrissons non autochtones. Le taux de mortalité des jeunes de 10 à 19 ans ayant le statut d'autochtone est au moins 2 fois plus élevé que la moyenne canadienne. Puis chez les filles autochtones âgées de 15 à 19 ans vivant dans les réserves, ce taux est presque 5 fois plus élevé. J'utilise souvent l'exemple du sénateur Anishinaabe retraité Maurice Sinclair qui avait présidé la commission de vérité et de réconciliation du Canada. Il avait expliqué le racisme de façon très simple et limpide. Et puis il dit que le racisme systémique est le racisme qui reste après qu'on s'est débarrassé des racistes. Donc, c'est-à-dire que c'est vraiment, ce sont des pratiques, des politiques qui sont ancrées dans le système de soins de santé qui ont ces effets là. Et donc, de notre côté, c'est-à-dire des côtés des soignants, je pense que ce qui est important, c'est de reconnaître que nous ne sommes pas neutres. Prétendre à la neutralité, c'est en fait ignorer l'histoire, la politique et les privilèges qui découlent ou ne découle pas de la position sociale de chacun.
L'Ordre des infirmières du Québec vient de reconnaître l'existence de ce racisme systémique, mais pas le gouvernement du Québec pour l'instant. Le docteur Samir Shahin Hussein espère aussi la décolonisation des soins, dit-il, l'adoption par exemple du principe de Joyce, déclaration qui vise à garantir à tous les autochtones un droit d'accès équitable, sans discrimination, à tous les services sociaux et de santé.
Le racisme endémique au Canada, ce dossier que vous signez. Marie Normand, merci. Et on accueille maintenant Tiziana Marone pour le journal de la première avec la Guyane à la une. Tiziana, où les récentes déclarations du ministre de l'Éducation nationale font vivement réagir.
Oui, Michael, Jean-Michel Blanquer a indiqué mercredi qu'en cas de Covid déclaré dans une classe, les enfants non vaccinés seront évincés. La FABEG, la Fédération des parents d'élèves de Guyane, n'hésite pas à parler de ségrégation à l'égard des élèves. Aïssa Touchambo, la présidente de la Fédération, répond à Patrick Clark de Guyane à la première.
Évidemment que ça nous a interpellés, même choqués. En premier lieu, on a eu l'impression que ça ne s'adressait pas à nous, dans la mesure où on est sur un territoire où près de 80% de la population ne souhaite pas se faire vacciner. Donc on se demande bien comment il va mettre en œuvre toutes ces annonces, notamment dans le second degré où les élèves qui ne seront pas vaccinés seront évincés des classes. C'est le terme qu'il a employé. Là, ça revient à mettre en place une véritable ségrégation au sein de la communauté éducative, une véritable ségrégation de nos enfants, parce qu'on sait très bien ce qu'il en est de la continuité pédagogique, des moyens, enfin du manque de moyens, des moyens qui n'existent pas au sein de l'éducation nationale, ou en tout cas au sein des écoles de Guyane. Ce sera véritablement impossible que les élèves qui ne sont pas vaccinés puissent bénéficier d'un enseignement à distance. Avec quels moyens ?
Cap sur la Martinique qui entame son 4e confinement dès ce soir. Une restriction mal vécue par la population. L'obligation désormais de faire du sport pour se rendre à la plage est loin de faire l'unanimité. Écoutez ces baigneurs au micro de Jean-Baptiste Anatole de Martinique la Première.
Ne pas venir s'asseoir et faire du sport, je pense que c'est pas idéal non plus pour des enfants. Il faut qu'ils s'amusent et donc voilà.
Faut pas vous asseoir. Hein.
Ah non, mais là on n'a pas le choix. Hein. Je veux pas rester debout. J'ai pas envie d'aller à l'eau non plus. Donc nous sommes là pour un petit moment. Après on s'en va. Il y aura pas de souci.
Ah, ce serait un petit peu court. Ce serait quand même dommage. Vous voyez, nous sommes assis, nous avec des enfants. Ils sont chauds. Il faut quand même qu'on s'assoie un peu.
Voilà. Faut venir prendre un petit bain.
Et en plus, oui, bien sûr. Si on vient à la plage, c'est pour prendre un petit bain.
Pas uniquement pour du sport.
Pas forcément.
Ben on fera semblant. On fera semblant d'être dynamique.
On va s'adapter. Hein. On va s'adapter. C'est dur quand même, hein, surtout pour nous qui sommes en vacances. On est arrivé il y a 2 jours et là on est là pour encore 15 jours et on est sous cloche. C'est dommage.
Des propos recueillis par Jean-Baptiste Anatole de Martinique la Première et c'est la fin de cette édition. Bonne journée.
Merci beaucoup, Tiziana Maron, pour votre concision. Bonne journée à vous, bon week-end aussi à vous et à tous nos auditeurs du rendez-vous d'Haïti et des Amériques qui s'achève. On se retrouve lundi pour une nouvelle semaine. En attendant, vous pouvez évidemment nous réécouter sur RFI Pure Radio, nous podcaster sur toutes les plateformes et commenter l'actualité sur RFI Amérique sur Twitter.